C'est Virginie Ruffneck, chef du groupe Rassemblement au Congrès, qui était vendredi l'invité de Transparence. Elle est revenue sur les discussions entre le ministre des Outre-mer et les délégations calédoniennes. Extrait dès le début de ce journal. Une belle fête pour les 40 ans de Radio Rythme Bleu. Vous avez été très nombreux à participer hier à notre grande journée portes ouvertes. Un vrai moment de rencontre et de partage. 250 000 personnes rassemblées cette nuit pour nous dans toute la France à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À Paris, toutes les associations féministes n'étaient pas les bienvenues dans le cortège. Cela fait maintenant 3 semaines que le pape François est hospitalisé. Son état de santé reste stable, a indiqué ce matin le Vatican dans un communiqué. Toutefois, le pronostic vital du Saint-Père reste réservé. Le sport, le rugby, une très belle victoire du 15 de France en Irlande pour le compte de la 4e journée du tournoi Destination. Les Bleus l'ont emporté à Dublin 42 à 27. Et puis en Calédonie, de la natation avec le défi qui pique. Les jeunes générations sont réunies au centre aquatique de Dimbéa pour des épreuves en équipe. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, au chapitre des faits divers, ces violences ce matin sur la RT1, ça s'est passé au niveau de la tribu de Saint-Laurent. Tout a commencé lorsque des individus alcoolisés ont caillassé des véhicules. Nous venons de joindre le général Nicolas Mathéos, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
Nous avons eu des difficultés à 9h du matin. Des jeunes alcoolisés entre 15 et 30 s'en sont pris aux automobilistes au niveau du col de la pirogue par des jets de cailloux, donc la gendarmerie est intervenue tout de suite. Nous avons nous-mêmes subi des jets de cailloux de manière très violente et agressive. Les jeunes alcoolisés ont ensuite été repoussés. Pour ça, nous avons dû faire usage de grenades pour les disperser. Ils ont été repoussés dans la tribu. Nous avons dû couper la route le temps des opérations. Nous avons parallèlement contacté les autorités coutumières et le président de l'aire coutumière de la tribu pour faire cesser ce désordre et pour que ces jeunes puissent rapidement nous être présentés car ils ont des comptes à rendre.
Il était question également de mortiers artisanaux.
Oui, alors nous avons effectivement entendu des tirs de mortiers qui n'ont pas été dirigés sur nous. Donc effectivement, je confirme la présence de mortiers. La circulation établie, nous avons un dispositif conséquent pour garantir la sécurité des usagers de la route. J'ai aujourd'hui un escadron qui est déployé le long de l'axe pour garantir la totale sécurité des usagers de la route. Et bien entendu, il y aura une enquête judiciaire sous l'autorité du procureur public qui permettra rapidement, je l'espère, d'appréhender les auteurs de ces exactions.
Le général de division Nicolas Mathéos, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, joint il y a quelques minutes par Michael Juneski. L'objectif des discussions autour du ministre des Outre-mer est de trouver un compromis politique, déclare Virginie Ruffneck. Le chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle a notamment été interrogée sur le document de synthèse publié par l'État, Michael Juneski.
Virginie Ruffneck est revenue sur l'état d'esprit constructif qui préside aux réunions organisées entre Manuel Valls et les délégations calédoniennes. Et il y a, selon elle, une volonté de dégager l'horizon des Calédoniens et de tracer une voie d'avenir. C'est notre responsabilité, dit-elle. Interrogée sur les éléments incontournables qui ont été posés sur la table par la récente convention du FLNKS, elle indique que c'est à l'État d'y répondre. Mais elle juge inacceptable la requête qui concerne la présence de Christian Théin aux négociations.
Autant chacun peut défendre ses aspirations sur les cas de M. Théin. On sait aujourd'hui que des soupçons pèsent sur lui avec des chefs d'accusation importants, des destructions volontaires, incendies volontaires, enfin en tout cas un chef d'accusation suffisamment important, manifestement, pour que la justice ait décidé de le placer en détention provisoire. Ces soupçons qui pèsent sur cette personne, et notamment le fait qu'il était porte-parole de la CCAT, dont aussi des soupçons pèsent sur cette organisation, disant qu'elle serait à l'origine des exactions, de la violence extrêmement intense qui s'est abattue sur la Nouvelle-Calédonie et qui plonge des milliers de Calédoniens dans le chaos, sans emploi, sans maison, sans entreprise, sans travail, sans capacité de nourrir dignement leur famille. Tout cela fait clairement que pour nous, cette requête est juste inacceptable.
Interrogé par ailleurs sur le document de l'État, le chef de groupe du Rassemblement affirme que ce n'est pas un PV ou un relevé de décision. Les partenaires calédoniens n'ont pas participé à sa rédaction et ils n'ont rien signé. Mais elle relève que ce document contient des points fondamentaux sans lesquels il n'aurait pas été possible d'avancer. Et en réponse aux inquiétudes de certains calédoniens, Virginie Ruffneck affirme qu'il n'est pas question d'indépendance association ou d'indépendance avec partenariat.
Je veux ici les rassurer parce que les Calédoniens, c'est eux qui nous ont donné notre mandat d'élu. Et ce mandat d'élu, il est pas pour signer une indépendance de quelque forme qu'elle soit. Ça veut dire qu'en plus, il y a eu 3 référendums, ils sont exprimés. Donc il faut que les Calédoniens réalisent que dans le camp loyaliste et celui du Rassemblement, nous sommes en fait là pour garantir le choix qu'ils ont exprimé du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Et nous ne renierons pas notre engagement à ce niveau-là. Il faut qu'il soit totalement assuré là-dessus. Donc si l'État devait vouloir nous emmener là-dessus, nous ne signerons pas, donc il n'y aura pas de compromis.
On attend des indépendantistes qu'ils disent sur quoi ils sont capables d'avancer, déclare Virginie Rufnacht, qui souhaite un accord ou un compromis basé sur le pragmatisme. À ce titre, il n'est pas question d'organiser un référendum d'autodétermination alors que les Calédoniens n'en veulent plus.
Vous voyez la situation dans laquelle ça nous a mis aussi ces référendums. Nous, le Rassemblement, nous souhaitions qu'on aille vers un accord négocié comme en 88 et en 98. On n'a pas été entendu. Après le premier, on a dit, ça serait bien maintenant qu'on s'arrête. On arrête le jeu là, puis qu'on passe à autre chose. Et les indépendantistes ont réclamé ces référendums. Et l'État, ils les ont exigés même, les indépendantistes. Et l'État les a organisés parce que les indépendantistes les avaient exigés. Et maintenant, il s'agit donc de les respecter, puisque c'est eux qui l'ont voulu, même si nous, au Rassemblement, nous privilégions une autre voie qui mettait moins face à face, bloc contre bloc, les deux légitimités de la Nouvelle-Calédonie. Donc les référendums, on n'en veut plus, parce que là, on a un gros travail pour remonter la Nouvelle-Calédonie.
Le chef du groupe Rassemblement au Congrès a détaillé plusieurs points du document de l'État et elle insiste sur la différenciation provinciale qui est évoquée au titre de la gouvernance en expliquant pourquoi le Rassemblement défend cette solution.
Très clairement, en 88, Michel Rocard comprend avec un peu de génie que la Calédonie, contrairement à ce qu'on passe son temps à dire, elle n'est pas une et indivisible. Elle est plurielle et en plus aujourd'hui, elle est particulièrement divisée. Il comprend ça et il essaye de faire la conciliation de tout cela. Et la conciliation de tout ça, pour lui, c'est de donner du pouvoir dans les provinces pour que chacun puisse développer son orientation et son ambition politique. Et de 88 à 98, ça marche. Les populations sont fixées dans leurs provinces. Et c'est qu'à partir de 98, la accord de Nouméa. On recentralise tout vers la Nouvelle-Calédonie, que les populations du Nord et des îles, elles migrent vers le Sud.
Une différenciation d'autant plus indispensable aujourd'hui, souligne Virginie Rufnacht, alors que la Nouvelle-Calédonie doit connaître impérativement un rebond économique.
Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, 91% de la recette fiscale est fabriquée par la province Sud. Donc la province Sud a un levier de rebond économique, malheureusement que les deux autres provinces n'ont pas immédiatement et tout de suite. Elle a, cette province Sud, la capacité de rebondir, mais à condition d'en avoir la compétence. Il peut y avoir les impôts baissés, mais à condition que nous ayons la compétence de baisser les impôts. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la fiscalité revienne vers les provinces. On peut faire venir des investisseurs à condition que le code du travail soit aussi modifié. Et puis par ailleurs, et Nicolas Metzdorf l'a très bien exprimé dans ses discussions, nous avons besoin de protéger les Calédoniens. Donc nous avons besoin d'avoir, comme c'est le cas pour les municipalités, des polices de proximité dans les provinces qui permettent de sécuriser les gens au-delà de la compétence d'ordre public régalienne de l'État. Ça veut dire que nous, on dit, revenons vers nos provinces comme c'était le cas en 88, que le Nord et les îles aussi profitent de cette opportunité à nouveau pour se redynamiser, mais remettons les compétences dans les provinces parce qu'au Congrès de la Calédonie, nous passons notre vie à nous battre, et j'en sais quelque chose, pour un modèle unique qui ne correspond pas aux 3 provinces.
La vice-présidente du Rassemblement a aussi été interrogée sur l'élection prochaine du président des Républicains, le parti national auquel est affilié le Rassemblement. Elle annonce qu'une campagne en interne va être organisée loyalement avec 2 comités de soutien qui porteront l'un la candidature de Laurent Wauquiez et l'autre celle de Bruno Retailleau. Et si Georges Naturel a annoncé qu'il allait présider le comité de soutien à Bruno Retailleau, cela ne s'est pas fait en concertation avec le Rassemblement.
Non, mais je rappelle que Georges Naturel n'est plus membre, a quitté le Rassemblement il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Par conséquent, c'est un soutien en dehors de la famille du Rassemblement qui finalement est le parti affilié aux Républicains au niveau national. Ça veut dire que il le soutient, il est sénateur LR, tant mieux, mais en tout cas, nous, le Rassemblement, c'est le vote interne qui est là, puisque ce sont les militants qui sont appelés à choisir, et nous aurons effectivement 2 personnalités qui soutiendront chacun des candidats, et nous le ferons de manière très équitable, de façon à ce que vraiment nos adhérents soient totalement libres de leur choix.
Une interview de Virginie Rufnacht qui sera rediffusée ce soir sur notre antenne, juste après notre édition de 17h45. Elle est également disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Merci Mickaël, il est 12h09, on marque une première pause dans ce journal.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Lionel Sabot.
C'est une belle journée de fête et de partage que nous avons vécue hier pour fêter le 40e anniversaire de la radio. Nous avons tout au long de la journée d'hier donc ouvert grand les portes de la station et vous avez été très nombreux à venir rue de Sébastopol pour découvrir l'envers du décor et rencontrer celles et ceux dont les voix vous accompagnent au quotidien pour certaines depuis 4 décennies. À l'occasion de cet anniversaire, nous vous proposons également d'entendre depuis hier les témoignages de personnalités, témoignages que nous rediffusons ce dimanche. Ce matin, dans le journal à 7h, vous avez pu entendre Louis Balland, Jean-Pierre Cuenet, Michel Trabelsi, Jean-Louis Lérot et Olivier Deniau. Ce midi, nous vous proposons d'entendre pour commencer Douglas Hickson, le directeur du Cinécity.
Eh bien, c'est 40 ans de partenariat. 30 ans de partenariat avec les cinémas Hickson. D'abord, c'était le Hickson City, puis aujourd'hui, c'est le Ciné City. C'est mon père, Thomas, tout le monde le connaît sous le terme de Bob, et Walter, mon frère aîné, qui ont signé ce partenariat en 85 avec Radio Rythme Bleu, et ce partenariat est toujours actif. Ensuite, c'est vrai que le partenariat, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est un travail de toutes les semaines. 40 ans, mais vous pouvez multiplier par 52, parce que le cinéma, ça change toutes les semaines. C'est un soutien au film, aux salles, qui a été fait à travers les communications, les places offertes aussi sur Radio Rythme Bleu, je ne sais pas combien, mais énormément, les joies des spectateurs que l'on entend recevoir ces places. C'est un travail de l'équipe, parce qu'effectivement, pour faire cette communication, il y a du taf toutes les semaines. Donc voilà, c'est la première chose qui me vient. Donc Radio Rythme Bleu, c'est devenu de fait la radio du cinéma durant toutes ces années. Et puis, je dirais que c'est une relation amicale et j'allais dire presque familiale, mais il n'y a pas de liens de familiaux du tout. Mais c'est vrai qu'on a appris à se connaître les uns les autres et on a apprécié énormément cette fidélité, cette régularité dans ce travail que nous avons fait. Alors moi, je suis un fan de l'information, donc je me retrouve bien dans Radio Rythme Bleu, qui est une radio d'information, et j'écoute de moins en moins rarement en direct, mais tous les jours en podcast, que ce soit sur le site internet ou sur le site Facebook, ce qui me permet de suivre chaque événement. Et alors, je devrais pas dire, mais quand je veux bien être sûr, eh bien, je réécoute certaines émissions ou certains billets d'humeur qui me plaisent bien. Voilà.
Douglas Hickson, le directeur du Cinécity. Témoignage ce midi également de Betty Levonquet, la présidente de la Banque Alimentaire.
RRB fait partie de ma vie. RRB, c'est ma famille. Quand je viens à RRB, je suis comme chez moi. Je me rappelle d'une chose importante. Je suis guichetière à la Société Générale et Elisabeth Noir, elle met son premier chèque de salaire à l'encaissement. Tous les jours, dès que je me lève, dans ma voiture, où je suis souvent parce que je suis agent immobilier, donc je suis tout le temps dans ma voiture. Donc oui, j'écoute. Oui, c'est vrai, c'est la radio que j'entends régulièrement tous les jours, oui. Je souhaite un très très joyeux anniversaire à RRB, je souhaite une très longue vie à cette radio que j'aime, les gens qui l'animent, que j'aime beaucoup, et Elisabeth, Christian Gérald, merci à vous. Et puis surtout, une pensée à Nathalie Germain et à Robert Canal, que je n'oublierai jamais.
Autre témoignage ce midi, celui de Christopher Gigès, membre du gouvernement.
On a besoin d'RRB, on a besoin d'avoir cette radio qui est vraiment une radio d'opinion et qui l'assume bien. Donc on en a vraiment besoin encore pour de nombreuses années. Donc ça, c'est le message principal de soutien. Et un souvenir où la première fois où j'étais interviewé par RRB, c'était un 1er mai où j'allais acheter du muguet pour ma mère. Donc voilà, c'est un message et un souvenir. Ouais, je souhaite un très joyeux anniversaire à RRB et à tous ces journalistes, notamment Elisabeth, qui je fais une grosse bise.
RRB, vous le savez, c'est également Sportmidable. Écoutez Christophe Dabin, le président du CTOS, le Comité Territorial Olympique et Sportif.
Ça m'inspire beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est une des premières radios qu'on a écoutées quand on était adolescent avec toute la famille. Et ensuite, on a continué, moi, au niveau professionnel, à chaque fois que je me suis déplacé sur le territoire, que ce soit à Coahua, à Pointe-d'Imier, à Farine, tribunaux à la fois. J'avais toujours cette radio, donc même quand je me déplaçais en voiture. Il y a comme une chose importante, c'est que moi, c'est le premier réflexe quand je me lève le matin, avant de boire un café, avant de faire quoi que ce soit, c'est j'allume la radio. J'écoute RRB et je tombe souvent sur les avis d'essai et puis les premiers titres. Et pour moi, c'est ce qui me permet de commencer, je veux dire, toujours tranquillement la journée. 40 ans, c'est quelque chose qui se fête et je souhaite vraiment un très bon anniversaire à RRB en espérant qu'on fêtera 50, 60, 70 ans par la suite.
On va rester dans le domaine du sport avec le témoignage d'Olivier Ledin, c'est le directeur du Challenger de tennis de Nouméa.
Bon anniversaire à RRB, on est très content que la radio soit toujours là, toujours debout à nos côtés pour nous accompagner tout au long de la journée et tout au long de la semaine avec plein d'émissions différentes. Pourvu que ça dure encore 40 ans.
Olivier Ledin, directeur du Challenger de tennis de Nouméa, que vous retrouverez également demain à partir de 17h pour une semaine sportminable. Et rendez-vous aussi ce soir dans notre journal de 17h45 pour d'autres témoignages recueillis pour fêter le 40e anniversaire de Radio Rythme Bleu. Dernière ligne droite pour le 18e Salon des Femmes à la Maison des Artisans. C'est plus de 75 exposants qui sont présents sur place avec de nombreuses animations, des ateliers, des témoignages, une exposition et les visiteurs qui sont toujours aussi nombreux à la Maison des Artisans.
Pour l'occasion, tout ce qui est Journée de la Femme, c'est important pour moi parce que cette année, il y a des nouveautés à la Maison des Artisans, notamment les stands d'information pour la Journée de la Femme, pour les conditions de la femme, pour l'évolution de la femme. Donc je viens m'informer et je viens me faire du bien au cœur et aux yeux.
C'est sympa. Pas mal de stands, là, 70 stands je crois. Donc on va prendre le temps, promener.
Moi j'adore toujours tout ce qui se passe à la Maison des Artisans. Et là, spécialement pour les femmes, je trouve qu'il y a un choix varié et c'est super. On se promène en même temps pour le week-end, c'est sympa.
C'est vraiment destiné à la femme et puis j'ai pu trouver des choses qui m'intéressent, des crèmes de visage et des nettoyants et tout. Et pareil, on s'est pris du thé, des thés glacés. Ce sera très rafraîchissant pour la période qu'on passe en ce moment.
C'est bien, c'est particulier mais ça va. Dehors c'est plutôt restauration, là on commence l'intérieur, c'est plus les bijoux. On n'est pas trop bijoux, mais c'est joli. Même joli, les prix aussi.
Très bien pour les femmes et tout. Et je découvre plein de bijoux parce que je suis très fan des bijoux. Je vois qu'il y a des stands pour serviettes usagées. Et je trouve ça super bien qu'on le montre comme ça. Et je trouve ça formidable.
Et le Salon des Femmes, c'est jusqu'à 17h à la Maison des Artisans. L'entrée et les animations sont bien sûr gratuites. Il y avait de l'animation ce matin également à Farino avec le marché de mamie, l'occasion de célébrer la journée de la femme dans une ambiance conviviale et festive. Les exposantes étaient nombreuses à présenter sur leur table des produits locaux, du terroir, des plantes, de l'artisanat local à des prix très attractifs. Ghislaine Arly est la responsable du marché de mamie.
On a beaucoup de monde, une bonne animation, les gens sont heureux. Et puis un beau temps, pas trop chaud, beaucoup de produits, dans une ambiance toujours conviviale à Farino, parce que déjà une animation de musique sympa. Ce marché, c'est vraiment ce que j'aime, c'est de voir des gens heureux, de voir des gens qui se rencontrent, qui partagent, qui boivent un café ensemble, qui se retrouvent depuis quelques années, depuis quelques fois. Les gens viennent de partout. Ce matin, il y avait des gens de Poya, il y avait des gens de Kwawa, de Kanala. C'est ça qui est sympa, c'est que les gens se retrouvent. Ça fait plaisir de voir des gens heureux, quoi. Et les femmes à l'honneur, donc on n'a pas fait d'animation spéciale, sauf que eh bien, les femmes des stands, déjà, on leur avait demandé d'avoir une tenue fleurie, de mettre une fleur à l'oreille. Et puis voilà, au niveau du micro, ben, on a pu féliciter les femmes, et puis leur dire que les droits qui sont acquis et gardés, bien sûr, et puis qu'on continue la lutte, on va dire, contre les violences faites aux femmes, etc.
Et les marchés de mamie a refermé ses portes à midi sur la place de la mairie. À Farino. Il est midi et pratiquement 19 minutes. On marque une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB Recherche, un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Exactement la suite de votre journal avec l'actualité en métropole. On retrouve Lionel Sabot.
Et 250 000 personnes qui se sont rassemblées cette nuit pour nous dans toute la France à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. 120 000 personnes selon les organisateurs, 48 000 selon la préfecture de police ont défilé dans les rues de Paris. Rassemblement qui s'est déroulé plutôt dans le calme mais qui a été marqué par des oppositions idéologiques puisque toutes les associations féministes n'étaient pas les bienvenus dans le cortège parisien. Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Et à l'image du collectif féministe Némésis qui s'est vu refuser l'accès au cortège par les organisateurs de la manifestation, placé dès leur arrivée à l'écart dans une ruelle par la police pour éviter tout débordement, ils ont été accueillis avec des slogans hostiles par les manifestants. Écoutez. Némésis, le collectif a ensuite été pris à partie par plusieurs groupes d'Antifa, entraînant même l'intervention des forces de l'ordre en fin d'après-midi pour disperser des black blocs qui tentaient de s'en prendre à eux. Un accueil similaire a été réservé aux manifestants du collectif Nous Vivrons, fondé au lendemain du 7 octobre en soutien aux victimes israéliennes du Hamas. Contraints de devoir défiler en fin de cortège, séparés par un cordon de police, alors que plusieurs groupes pro-palestiniens ont eux été invités à défiler aux côtés des organisateurs, drapeau à la main.
Et vous l'avez entendu, l'accès au cortège a donc été refusé au collectif Némésis et au collectif Nous Vivrons. Écoutez, Aurélie Assouline, c'est la présidente du comité du 7 octobre.
En fait, je viens de passer un après-midi lunaire. On a été parqués à l'extérieur de la manifestation. On était dans l'impossibilité d'avancer pendant près de 3h45. On a fini assises par terre à attendre que les policiers, que je remercie, qui ont fait un cordon de sécurité incroyable, gazent les personnes qui ne voulaient pas avancer pour empêcher les femmes juives de participer à la manifestation. La Journée internationale des droits des femmes est maintenant prise dans l'étau de l'extrême gauche. Ils se distribuaient des papiers en disant « tant que les sionistes seront là, nous n'avançons pas ». On est sortis de la République. Voilà, aujourd'hui, on n'avait pas le droit d'être au sein de la République.
Et j'ajoute qu'hier déjà, des appels à l'intifada avaient été entendus dans les rues de Paris, alors lors d'une marche organisée par des associations féministes d'extrême gauche, manifestation à laquelle les groupes pro-palestiniens s'étaient greffés. Ce rassemblement avait été initialement interdit par la préfecture de police de Paris, une interdiction levée par la justice. Dans l'actualité, ce matin encore, plus de 3000 personnes qui ont défilé dans les rues d'Ajaccio cette nuit. Une manifestation pour dire non à la mafia, alors que 3 personnes sont mortes depuis le début de l'année sur l'île de Beauté.
Concrètement, on se bat pour avoir un avenir, pour pouvoir vivre sur cette terre et que cette terre soit une terre saine et apaisée. Personne ne peut dire qu'il n'est pas en danger en Corse en ce moment. Quand on est agriculteur, quand on est commerçant, quand on fait du BTP, quand on est restaurateur, peu importe, on est en danger.
Cette erreur, c'est horrible, hein. Il faut absolument faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va suffire, mais bon, au moins il faut être là pour montrer notre détermination et notre volonté que ça s'arrête.
Après, on ne peut pas se plaindre si on ne participe pas, montrer qu'on soutient voilà, cette idée pour le futur de nos enfants.
On ne pouvait pas imaginer qu'il y ait 3000 personnes dans la rue à Ajaccio, dans le contexte actuel qui plaît. Parce que les gens, ils savent très bien ici qu'il y a un minimum de risques qu'ils prennent. Donc ce sont des gens courageux et nous sommes très nombreux à l'être.
Et cette nuit pour nous, plusieurs associations et élus politiques ont participé à cette manifestation à Ajaccio. Le préfet de Corse, Jérôme Filippini Ferrare, a pris la parole devant la foule. Si nous travaillons ensemble, la Corse et l'État, nous pourrons triompher de la mafia, a notamment déclaré le représentant de l'État qui a été très longuement applaudi. Les suites de l'enquête tentaculaire sur l'évasion du trafiquant de drogue Mohamed Amra en mai 2024. 8 nouvelles personnes ont été mises en examen, ce qui porte à 28 au total le nombre de mises en examen dans cette affaire. Mohamed Amra, je vous le rappelle, a été interpellé en Roumanie il y a quelques jours après une cavale de plus de 9 mois. L'actualité à l'étranger, cela fait maintenant 3 semaines que le pape François est hospitalisé pour une double pneumonie à l'hôpital Gemelli de Rome. Le souverain pontife répond bien au traitement médical qu'il reçoit depuis son admission à l'hôpital. C'est ce qu'indique le dernier bulletin de santé du Saint-Père qui a été publié tôt ce matin pour nous. Caroline Baudry pour Europe 1.
L'état de santé du pape François est stable depuis quelques jours, répète le porte-parole du Vatican dans la salle de presse du Saint-Siège. Mais on apprend ce soir que cette stabilité témoigne, selon les médecins, d'une bonne réponse du pape aux soins qu'il reçoit. Il y a une légère amélioration, résume le communiqué. Les médecins souhaitent néanmoins rester prudents et confirmer cette évolution dans les prochains jours, peut-on lire plus loin. Le pape alterne prière, repos et travail dans sa chambre médicalisée de l'hôpital Gemelli. Demain, il sera remplacé par un cardinal pour présider la messe du premier dimanche du carême. Ce délégué lira l'homélie écrite par le Saint-Père. Pas de prière de l'Angélus non plus pour François. Comme les 3 dimanches précédent, son texte sera diffusé en ligne via le Vatican et sa fenêtre qui surplombe la place Saint-Pierre restera close.
Caroline Baudry, l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome. Il est midi et 25 minutes, on marque une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, toute l'actualité sportive.
Oser devenir. Du 7 au 9 mars, rendez-vous à la Maison des Artisans pour la 18e édition du Salon des Femmes. Venez découvrir plus de 70 exposants et profitez de nombreuses animations gratuites tout au long du week-end. Cette année, de nouveaux ateliers sur l'émancipation des femmes seront organisés en partenariat avec la province Sud. Témoignages, expositions, tables rondes ou encore des courts-métrages. Programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive avec Lionel Sabot.
Et on commence avec du rugby et le 15 de France qui est sorti vainqueur du choc contre l'Irlande dans le tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et les Bleus ont réalisé un joli coup pour le compte de la quatrième journée de compétition en allant s'imposer sur les terres du 15 du Trèfle, 42 à 27, Mickaël.
Et les cartes sont donc rebattues après ce succès des tricolores à Dublin sur le terrain du double tenant du titre qui visait pourtant le Grand Chelem. C'est le meilleur des scénarios pour espérer voir le 15 de France gagner la compétition malgré le faux pas en Angleterre. Et alors que la bataille a été rude contre le 15 du Trèfle avant de voir les Français prendre l'avantage 5 essais contre 3 côté irlandais. Les Bleus perdent toutefois Antoine Dupont, le capitaine, sur blessure. A priori, une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il devrait être forfait pour la dernière rencontre contre l'Écosse. Une sortie prématurée de Dupont qui était dans la tête de tous les Bleus à l'issue de la rencontre, comme par exemple le deuxième ligne calédonien Peato Mauvaka.
On savait que c'était un gros match, mais voilà, encore plus, on voulait gagner pour Antoine et... Voilà, tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il peut encore faire pour notre équipe et voilà, pour la France, on l'oublie pas. Et ouais, c'est sûr que ça nous a donné encore plus d'énergie pour jouer pendant 80 minutes à 200%.
La semaine prochaine, le 15 de France accueillera donc l'Écosse, alors que les Irlandais se déplaceront en Italie. L'équipe de France est pour le moment en tête du classement avec 2 points d'avance sur l'Irlande. Ça pourrait compter pour beaucoup en cas d'égalité entre les deux sélections à la fin du tournoi. Demain, la dernière rencontre de cette quatrième journée opposera l'Angleterre à l'Italie.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Allez, le football et l'Olympique de Marseille qui s'inclinent face à Lens pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.
Une défaite 1-0 et les Marseillais ratent l'occasion de conforter leur deuxième place au classement. Un peu plus tôt, le Paris Saint-Germain a dominé Rennes 4-1 avec des buts signés Barcola, Ramos et un doublé de Dembélé pour offrir ce succès à Paris. Et de son côté, Lille l'a emporté sur la lanterne rouge Montpellier sur le score de 1-0.
En athlétisme, des Français sur les podiums des championnats d'Europe indoor, ça veut dire en salle.
Ah oui, en point d'or, Agathe Guillemot qui est devenue championne d'Europe sur 1500 mètres, sa deuxième médaille européenne après le bronze obtenu l'année dernière en plein air à Rome. Les Bleus ont ainsi ouvert leur compteur dans la compétition qui se déroule aux Pays-Bas. Azedine Abza a lui remporté l'argent sur 1500 mètres chez les messieurs. La perchiste Marie-Julie Bonin a ensuite décroché le bronze, William Bellossan et juste Kouaoumaté se sont contentés de l'argent et du bronze sur le 60 mètres haies.
On va passer au tennis avec plusieurs tricolores en lice dans le deuxième tour du Masters 1000 d'Indian Wells aux États-Unis.
Et la tâche qui s'annonce difficile aujourd'hui pour Quentin Alice qui fait face à la tête de série numéro 2, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Quant à Hugo Gaston, il fait face au Polonais Hubert Hurkacz. Gaël Monfils sera quant à lui opposé à Sébastien Corda, l'Américain 25e au classement ATP.
Venons-en au sport en Calédonie, Mickaël, avec de la natation et le défi qui pique qui se déroule à Dimbéa.
Les jeunes générations sont réunies au centre aquatique de Dimbéa pour des épreuves en équipe, une compétition qui se déroule avant tout dans une ambiance conviviale pour inciter les enfants à participer à des compétitions.
À vos marques.
C'est ma mère qui m'a proposé de faire cette compétition et j'ai bien aimé. Je suis arrivée deuxième et je pense que c'est déjà bien.
C'est super, il y a beaucoup d'investissements. Les jeunes apprennent à s'adapter avec l'eau. Ils développent leurs capacités, ils comprennent ce que c'est aussi la compétition et il y a aussi cet esprit d'équipe. Bah, c'est super en fait, parce qu'il y a aussi ce fair play, c'est super.
Et surtout ce que j'aime bien c'est que tous les grands du niveau supérieur, ils aident à placer le matos le matin. Et puis voilà, je trouve ça super. Et comme l'a dit ma collègue juste avant, c'est super l'ambiance.
C'est bien, j'ai aidé les petits. J'ai fait les 50 nages libres. Ouais, j'ai fait premier pour mon 25 nages libres.
J'aime bien gagner des médailles. Et j'aime bien faire de la course.
Plus d'une centaine de nageurs présents donc toute la journée au centre aquatique de Dimbé à cette occasion.
Allez, on jette un coup d'œil, Mickaël, pour finir au reste de l'actualité sport sur le territoire.
Oui, en badminton, la suite de la coupe d'ouverture à la salle Wayo d'Imbéa. On rappelle qu'en individuel, les victoires de Marc-Antoine Desemos et de Johanna Couche et les féminines, tous deux de l'AS Magenta, envoient la première régate du challenge G70 de l'année. 7 bateaux inscrits hier pour 34 participants. L'équipage de Philippe Minier, sponsor Wanted, a remporté cette première étape. Et puis hors du territoire, encore une belle performance en karaté au championnat de France Espoir pour Kurt Evlakov. Il est devenu vice-champion national chez les moins de 67 kilos. Il sera de nouveau au championnat de France universitaire le week-end du 22 et 23 mars prochain.
Il est midi et 31 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information et la rédaction de Radio Rythme Bleu, ce sera à 13h. Bel après-midi, à tout à l'heure.